Bon, là ça c'est un peu faible. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu ce matin? Bon, donc je vais vous inviter à faire quelque chose qu'on aime faire ici, à la vie comblée. On va faire une déclaration de la foi, parce que la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec la bouche, en croyant du cœur, s'accomplit, n'est-ce pas? Donc, combien de vous croyez que cette Bible est inspirée de Dieu? Hein, ça c'est à peu près 90%. Combien de vous croyez que cette Bible est inspirée de Dieu? Amen. Alors, donc, on va prendre cette Bible, et si vous n'avez pas une Bible avec vous, je vous invite à prendre la feuille que vous avez reçue à la porte, qui contient presque tous les versets que nous allons étudier ce matin. On va faire cette déclaration. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je serai jamais plus pareil, mais je serai changé, transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, ça tombe bien. Parce que vous savez que ce matin, vous voyez que notre message aujourd'hui, c'est « Laissez-vous transformer ». Et moi, je crois qu'il n'y a pas une personne ici qui n'a pas besoin de au moins un peu de transformation. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un ici que vous êtes à 100% satisfait ou content de votre vie aujourd'hui? Il n'y a absolument rien que vous voulez voir changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, voilà, c'est ça que je pensais. On a tous des choses à changer. Des fois, c'est des petites choses. Des fois, c'est des grandes choses. Des fois, c'est juste une chose ici et là. Ou des fois, on a besoin d'une transformation totale de A à Z, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans la parole de Dieu? C'est que Dieu veut nous changer. Et il nous a donné le pouvoir de changer. Et c'est-à-dire qu'il peut changer notre nature, il peut changer nos finances, il peut changer notre état de santé, il peut changer notre façon de voir et penser et parler. Dieu peut tout changer. Et comme vous voyez, j'ai mis une image ici, hein, une chenille et puis un papillon. Et on voit que dans la nature, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Parce que je ne sais pas ce qui vous concerne, mais je suis de l'opinion que le papillon est un peu plus beau que la chenille. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Donc, des fois, dans la vie, il y a des choses dans notre vie qu'on regarde, c'est comme, c'est pas trop beau. C'est pas trop beau qu'est-ce que je vois quand je regarde ma vie, quand je fais le bilan de ma vie, que ça soit ma vie spirituelle, ma vie conjugale ou ma vie financière. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas trop beau. Et qu'est-ce que la bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que Dieu veut transformer tous ces domaines de votre vie pour que ça soit pas juste un peu beau, mais vraiment merveilleux, extraordinaire. Amen. Et Dieu vous donne le pouvoir de le faire aussi. Donc, on va lire un verset, notre texte clé aujourd'hui, en Romains chapitre 12, si vous voulez tourner dans votre Bible. J'ai mis cela dans vos notes ce matin. C'est tiré de la version de la parole vivante que j'aime beaucoup aussi. Ça va nous donner beaucoup de lumière ce matin. Puis la parole de Dieu dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement, tout le monde dit entièrement, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente, tout le monde dit différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Est-ce que ça vous intéresse d'arriver à une réelle maturité en Jésus-Christ? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut vous changer, mais pas pour le pire, il veut vous changer pour le mieux. Il veut que quand les gens regardent votre vie, qu'ils sont frappés, c'est flagrant que vous connaissez Jésus. et que Jésus habite en vous, et que vous êtes le temple du Saint-Esprit, et que tous les domaines de votre vie sont infiltrés par la présence de Dieu et par la volonté de Dieu. Amen? C'est ça que je veux, en tout cas, et c'est ça que Dieu veut pour nous aussi. Mais on voit dans ce verset vraiment les clés. Et on va voir dans d'autres versets aussi la clé de votre transformation, parce que Dieu nous demande tout simplement d'être transformé, mais il nous donne une recette, il nous donne le moyen, il nous montre comment être changé. Amen. Donc, si on peut changer de diapo, donc la clé de votre transformation, et puis prochaine aussi, je vais vous montrer quelque chose, hein, ces deux images. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux images? Qu'est-ce qu'on a à gauche? En quoi? En ver de terre. Il faut que je le dise parce qu'il y a des gens qui écoutent par l'Internet. Il faut qu'ils sachent de quoi on parle. Et à droite, qu'est-ce qu'on a? C'est une chenille. Mais dans le fond, est-ce que ces deux choses ont des choses en commun? Moi, je dirais un peu, n'est-ce pas? Ils se ressemblent un peu, mais ils sont pas tout à fait pareils, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on sait, c'est que souvent, on parle ici de développer et d'adopter une nouvelle mentalité. Et qu'est-ce qu'on sait, c'est que même dans le corps de Christ, des fois, il y a des personnes qui ont une mentalité d'un ver de terre. Je suis bon à rien, je suis pas vraiment quelque chose d'important, et je suis un ver de terre. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Il vit avec la honte, la culpabilité, la frustration, la déception. La vie n'est pas trop belle pour eux. Ver de terre. Mais, vous savez quoi? À droite, on a une chenille. Dans un sens, la vie d'une chenille, la vie d'un ver de terre, c'est différent, n'est-ce pas? Mais il y a quand même des choses qui se ressemblent aussi. C'est pas une vie élevée. C'est une vie, on pourrait dire, plus basse, n'est-ce pas? Ils grimpent tous les deux par terre et c'est pas vraiment une existence qui est magnifique, on pourrait dire. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais quand même, il y a une différence entre un ver de terre et une chenille. Et la différence, c'est dans le ADN, n'est-ce pas? C'est que la chenille a une capacité et le potentiel d'être transformée et de devenir quelque chose qui est beaucoup plus beau, et de pouvoir atteindre les hauteurs qu'un ver de terre ne peut jamais atteindre, n'est-ce pas? Et savez-vous, c'est ça, qu'est-ce que je veux que vous sachiez, c'est que premièrement, la première étape dans la transformation, si vous voulez, je vais juste prendre ça comme illustration, et il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas un ver de terre. Tout le monde dit, je ne suis pas un ver de terre. Amen. Un bon hiver, vous n'êtes pas une chenille non plus. Mais quand même, dans un sens, juste à titre d'illustration, je veux que vous sachiez quelque chose. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, par exemple, c'est quelqu'un qui a une grande valeur, c'est quelqu'un qui est important, mais dans un sens, il est plus comme un ver de terre. Il est sans espoir de monter dans les hauteurs. Il n'a aucune espérance de voler en ver de terre. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez déjà vu un ver de terre voler? Oui, quand je vais à la pêche, des fois, hein? Mais c'est pas de sa propre force qu'il vole, vous êtes d'accord? Il est lancé plutôt, il vole pas. Il n'a même pas la capacité de voler. Tandis que il y a quelque chose dans la chenille, dans son ADN, qui lui donne un futur et une espérance de un jour pouvoir voler, n'est-ce pas? Et dans un sens, juste encore, à titre je vais pas commencer une nouvelle doctrine, hein. Sortez pas de l'église en disant, le pasteur a dit que les pêcheurs sont des vers de terre non, c'est pas ça. Mais si vous connaissez pas Jésus, dans un sens, vous êtes comme le vers de terre qui n'a aucune espérance de pouvoir voler. Mais quand quelqu'un est en Christ, la Bible dit qu'il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues, quoi? Nouvelle. En fait, en grec, ça veut dire littéralement qu'il est devenu une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé auparavant. Quand on vient à Jésus, notre cœur, notre esprit qui est infecté par le péché, c'est pas juste pardonné, mais c'est régénéré. Nous sommes les nouvelles créations. Amen. C'est plus qu'une transformation, c'est vraiment une récréation, c'est une régénération. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, quoi, créature. Et dans un sens, on peut dire que quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur Jésus, le ver de terre qui se repent et dit, « Oh, j'ai besoin de toi », dans un sens, c'est comme il est recréé, il prend la forme, on pourrait dire, d'une chenille. Et cette nouvelle créature contient l'ADN, on pourrait dire, la capacité d'être transformée. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes recréé, régénéré dans votre esprit, mais vous n'êtes pas transformé automatiquement. C'est-à-dire que, spirituellement parlant, vous pouvez rester chenille toute votre vie chrétienne. Vous pouvez rester en bas, grimper par terre, hein, à avoir une vie qui est quand même plate. Moi, je dirais que ça serait assez plate. Et vous? Tout en ayant à l'intérieur de vous le ADN qui est nécessaire pour vous transformer en papillon et devenir une créature. Dans le fond, c'est la même créature, n'est-ce pas? Hein? Le chenille est transformé, mais c'est quand même la même créature. Mais maintenant, toutes les qualités, toutes les caractéristiques, tout le potentiel qui réside dans la chenille est manifesté, les ailes sont apparues, et maintenant, la chenille transformée en papillon peut prendre le vol, n'est-ce pas? Il peut voler, il peut voir la vie d'une autre perspective, il peut monter en haut et pas rester en bas. Sa vie est plus belle. Tout est mieux pour le papillon. Amen? Je donne ça juste comme exemple. Mais combien de vous, posez-vous la question aujourd'hui, est-ce que vous êtes une chenille ou est-ce que vous êtes en papillon en Jésus-Christ? Si vous êtes en Jésus, au moins vous êtes une chenille, vous avez le potentiel de voler. Mais est-ce que vous avez déjà poussé les ailes? Est-ce que vous avez déjà expérimenté la transformation? Amen? Et c'est ça qu'on parle aujourd'hui. On va vous montrer comment expérimenter ce processus de transformation. Si vous êtes une chenille aujourd'hui, vous allez pouvoir faire tout ce qui est nécessaire pour devenir papillon. Amen? Donc, c'est ça qu'on veut. Et ça, c'est une vie qui est beaucoup plus belle, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi la clé de votre transformation? Il y a un verset en Jacques, chapitre 1, verset 21, qui nous donne vraiment la clé. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec quoi? Avec douceur, quelques traductions disent, avec humilité, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. N'est-ce pas intéressant que ici Jacques, il s'adresse cette parole pas aux non-croyants? Il parle pas aux pécheurs qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Mais ici, Jacques, il parle aux chrétiens nés de nouveau. Il parle pas aux vers de terre, il parle aux chenilles. Amen? Et encore, je fais attention quand je dis cela, parce que vous savez, quand je dis vers de terre, Dieu aime les vers de terre aussi. Dans ce sens, parce que Dieu a tant aimé les pécheurs qu'il a donné son Fils unique. Et moi, autrefois, j'étais pécheur. Autrefois, j'étais sans espoir, sans Dieu dans ce monde, sans connaissance de l'alliance de Dieu. Moi, je suis pas mieux que qui que ce soit sur la planète Terre. Moi, avant de connaître Jésus, j'étais pas mieux que Hitler ou n'importe qui. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Dieu aime le monde et Dieu aime les pécheurs. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne veut pas qu'on reste dans notre péché. Il veut qu'on soit régénéré, recréé et qu'on devienne une nouvelle création en Jésus-Christ. Mais Jacques, il parle aux chenilles, s'il vous plaît. Il parle aux gens qui sont déjà recréés dans l'esprit, parce que nous sommes les êtres sur trois dimensions. Nous sommes un esprit. Tout le monde dit, je suis un esprit. Je possède une âme, on va le dire, je possède une âme. Et je vis dans un corps. Mais c'est quoi? L'esprit, c'est le vrai vous. C'est votre être intérieur qui est créé à l'image de Dieu. Et lors de la nouvelle naissance, toutes les caractéristiques de Jésus-Christ, la Bible dit que vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés d'une semence incorruptible. Dans une semence, on peut prendre une semence pour d'une pomme, par exemple, et à l'intérieur de cette semence se trouvent toutes les caractéristiques d'une pommier, n'est-ce pas? On les voit pas, mais c'est là. De la même façon que dans une chenille, toutes les caractéristiques d'un papillon résident déjà dans la chenille. Amen? Donc, c'est la même chose. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, votre esprit a été récréé. Mais votre âme, c'est quoi votre âme? Votre âme, c'est, et je crois que je l'ai mis dans vos notes, votre âme, c'est votre intelligence, c'est vos émotions et c'est votre volonté. OK? Intelligence, émotion, volonté. Et voici qu'est-ce qu'on sait selon la parole de Dieu. Quand vous avez donné votre cœur à Jésus, votre esprit a été recréé, mais votre âme n'est pas encore transformée ou changée. Et c'est pourquoi la Bible dit, recevez avec douceur la parole plantée dans votre cœur qui est capable de sauver vos âmes. Et dans ce sens-là, le mot salut a quatre significations. Sécurité, guérison, raison saine. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Sécurité, guérison, raison saine. Et il y a un autre que j'ai, tout en un, j'ai un blanc. Délivrance, c'est ça, merci. Je ne l'ai pas dit comme faux. Mais délivrance, sécurité, raison saine, toutes ces choses, guérison, ça, c'est quand on parle de sauver l'âme, on parle de ça, on parle que votre intelligence, vos émotions et votre volonté peuvent être guéries, peuvent être dans la sécurité, peuvent être saines, délivrées, n'est-ce pas une bonne chose de savoir? Que le Seigneur veut transformer votre façon de penser, votre façon de ressentir les choses et votre façon de vouloir les choses aussi. C'est quelque chose de super important pour nous de saisir aujourd'hui. Deutéronome 30:19, on va lire un verset qui va de pair avec ceci. On va voir pourquoi il est tellement important pour nous, si vous êtes chenille aujourd'hui, de faire ce qui est nécessaire pour être transformé en papillon spirituel. Deutéronome 30:19 dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Tout le monde dit, choisis la vie. On peut dire, choisis d'être transformé. Dieu met devant nous un choix. Mais le choix va être fait où? Au niveau de notre âme. Parce que notre âme, c'est quoi encore? Notre intelligence, nos émotions et notre volonté. Notre volonté, c'est au niveau de l'âme. Donc, si je vais choisir la vie, votre vie aujourd'hui, c'est le résultat de vos choix hier. N'est-ce pas vrai? Il y a des gens qui n'aiment pas entendre cela, mais c'est vrai quand même. Votre vie aujourd'hui, laisse-moi vous dire ceci. Si vous marchez dans les bénédictions de Dieu aujourd'hui, c'est parce que vous avez choisi de marcher dans les bénédictions de Dieu. Mais si vous marchez dans les malédictions aujourd'hui, c'est parce que vous avez choisi de marcher dans les malédictions, même si votre choix était inconscient. Amen? Il n'y a pas grand monde qui va volontairement choisir d'être maudit, vous êtes d'accord? Mais on le fait, les gens le font régulièrement, même inconsciemment, l'âme prend des décisions. Et qu'est-ce qui est important pour nous, si on veut être transformé en papillon spirituel, c'est de toujours prendre la bonne décision. Mais pour prendre la bonne décision, il faut être transformé au niveau de l'âme. Et c'est pourquoi Romains 12:2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez, quoi, transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Donc, l'esprit est recréé, mais l'intelligence, l'âme a besoin d'être renouvelée. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour renouveler l'âme? Encore, on a vu en Jacques 1:21 que c'est la parole de Dieu qui est la clé. Recevez la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est capable de vous transformer. Elle est capable de sauver votre âme, de guérir, mettre en sécurité, de donner la raison saine à votre intelligence, à vos émotions et à votre volonté. C'est la parole de Dieu. Tout le monde dit, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole qui a le pouvoir de nous changer. Donc, si on va se laisser entièrement transformer par le renouvellement de l'intelligence, il faut donner place à la parole de Dieu. Donc, numéro un, laissez sa parole transformer ce que vous pensez. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce que vous pensez, là on parle de l'intelligence, pourquoi est-ce que vos pensées sont si importantes? Regardons le prochain verset et on va voir jusqu'à quel point c'est important. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Souligne le mot forteresse. Nous renversons les raisonnements. Souligne le mot raisonnement. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, souligne le mot pensée. Et on va voir ici le processus. Qu'est-ce qui se passe dans notre être pour faire de nous qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Vous savez que toute chose commence avec une pensée. Et si vous pensez à quelque chose, vous allez commencer à avoir des raisonnements ou d'autres traductions disent les imaginations. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une bonne imagination? Imagination. Avez-vous pensé à ça? Une imagination, c'est quoi? On a des images qui passent dans la tête, mais d'où est-ce que ça vient? Ça vient d'une pensée. Et chaque pensée est accompagnée par une image. Si je dis gros chien noir, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Est-ce que vous avez vu des lettres? J-R-O-S-C-H-I-E-N N-O-I-R, ou est-ce que tu as eu comme une image d'un gros chien noir? Qu'est-ce qui s'est passé? Si je dis Poutine, est-ce que vous voyez une Poutine? Ah, mais c'est quelqu'un des maisons, hein? J'ai faim. Je regarde l'horloge. Non, il ne faut pas faire ça. Mais vous savez que chaque pensée viennent avec une image, ou ça va provoquer une image, et ces imaginations, si on donne place à ces images dans notre tête, ça va influencer quoi? Ça va influencer nos désirs, et ça va influencer aussi, notre désir va influencer nos décisions, et nos décisions vont, ça c'est notre volonté, on parle toujours de l'âme, et nos décisions vont influencer nos actes, et nos actes vont se traduire en habitudes, et ces habitudes vont se traduire en forteresse. Donc on voit le processus pensée, imagination ou raisonnement et forteresse. Personne commence la vie avec une forteresse, personne commence la vie avec... Et en étant accroché à la pornographie. Ça, c'est vrai. Mais il y a combien de personnes dans notre société ont une forteresse de ça dans leur vie? Personne commence la vie avec une forteresse une manque de maîtrise de soi, un excès de temps. Il y a personne qui commence avec ça. Il y a des pensées, des imaginations, des actions qui sont semées puis qui vont finir par créer des forteresses dans la vie de quelqu'un. Amen? Mais voici la bonne nouvelle. De la même façon que l'ennemi peut bâtir les forteresses de destruction dans notre vie, on peut faire la même chose à l'inverse pour construire les forteresses de vie dans notre vie. On peut avoir une bonne pensée, une bonne imagination. On va avoir des bons désirs, on va prendre des bonnes décisions, et puis on va avoir des bonnes actions, des bonnes habitudes, et voilà notre vie et la vie d'un papillon au lieu d'une chenille. Amen. Donc, on va continuer à regarder parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, première chose, laissez sa parole transformer ce que vous pensez. C'est important. Il y a des personnes qui croient que, bon, c'est pas grave si je le pense aussi longtemps que je le fais pas. Si c'est correct si je pense à commettre l'adultère, ou si je convoite une femme, ou si je pense à dire des choses méchantes à quelqu'un, aussi longtemps que je le fais pas. Mais savez-vous, c'est dangereux parce que vos pensées vont donner naissance aux imaginations et vos imaginations vont donner place aux actions et vos actions vont créer des forteresses. Donc, regardons ceci en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Savez-vous, c'est ça que Dieu veut? Dieu veut qu'on apprenne à penser comme il pense. Et on peut regarder Ésaïe 55 et Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, car mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mais la Bible dit dans ce même passage qu'on a besoin d'abandonner nos pensées pour adopter les pensées de Dieu. En Philippiens chapitre 4, verset 8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout le monde dit vrai, tout le monde dit honorable, tout le monde est juste, pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux, digne de louange. Ça, c'est des critères que Dieu nous donne pour notre intelligence, pour nos pensées. Moi, je sais une chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui restent chenilles parce qu'ils n'ont jamais appris à penser comme Dieu pense. Et aussi longtemps que vous pensez que vous êtes une chenille, vous allez continuer à vivre comme une chenille. Aussi longtemps que vous avez une mentalité du pécheur, devinez qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez pécher. Si vous pensez, mais moi je suis qu'un ver de terre, je suis un vieux pécheur, oui sauvé par la grâce, mais je suis qu'un pécheur. Mais vous savez, c'est pas biblique de dire cela. J'étais un pécheur, j'étais mort dans mes péchés autrefois. Mais Dieu m'a rendu la vie. Et aujourd'hui, la parole de Dieu dit que celui qui n'a pas connu le péché s'est fait pécher pour que je puisse être la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est pas correct pour moi de dire, oh, je suis juste un pécheur. Non, j'étais un pécheur, mais je suis plus pécheur. Je suis la justice de Dieu aujourd'hui. Par sa grâce, par sa miséricorde, par son sacrifice. Mais vois-tu, il faut que je pense comme ça. Sinon, si je pense pécheur, je vais pécher. Si vous avez une mentalité de pauvreté, oh, je suis pauvre, oh, mes parents étaient pauvres, mes grands-parents étaient pauvres, toute ma famille est pauvre, je vais continuer à être pauvre. Savez-vous quoi? Vous allez rester pauvre toute votre vie. Parce que vous avez une mentalité de pauvreté. Si vous avez une mentalité de maladie, de faiblesse, combien de personnes, ils ont cette image d'eux-mêmes, la pensée vient, oh, je suis malade, je vais rester malade, et l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est, je suis un faible malade, et puis qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'ils vont rester faibles, ils vont rester malades. Amen? Donc, encore, on parle de renouveler votre intelligence, d'être transformé de chenille en papillon. Mais pour cela, ça prend la parole de Dieu. Et il faut trouver les pensées qui sont vraies, honorables, justes, pures, aimables, qui méritent l'approbation, vertueux, dignes de louange. Et ça, c'est les choses qu'il faut penser continuellement afin d'avoir continuellement la bonne image dans la tête, afin d'avoir aussi la capacité d'agir en conséquence pour être transformé. Amen. Donc, laissez sa parole transformer ce que vous pensez. Deuxième chose, et voici une chose que peut-être ça va vous surprendre. Donc, attachez vos tuques, OK? Laissez sa parole transformer ce que vous ressentez. Comment ça? Moi, j'ai aucun contrôle sur mes émotions. C'est ça le problème. Et là, je vais dire ça avec équilibre. Parce que je veux que vous sachiez, on va voir dans une minute que selon la parole de Dieu, c'est pas Pastor Ken Taylor qui le dit, mais selon la parole de Dieu, on a un certain contrôle sur nos émotions. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que si on n'a pas de contrôle sur les émotions, on sait, oh, Un jour, on est, on est content. L'autre jour, on est triste et on pleure. Et c'est une vie yo-yo. Mais qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'on soit capable de maîtriser nos émotions. Alors, attention. Comme avec les pensées. Savez-vous que vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si un oiseau veut voler au-dessus de ma tête et il vole à 50 pieds dans l'air, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour l'empêcher. Sauf si on a une 12 ou quelque chose comme ça. Mais même là. Mais je peux empêcher le même oiseau de faire son nid dans mes cheveux. S'il décide de vivre dans mes cheveux, ça c'est une autre histoire. Je ne suis pas obligé de le permettre de rester là. Vous êtes d'accord? Donc, il y a des pensées qui vont venir. Jésus a eu des pensées qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Il y a eu des tentations. Les tentations viennent normalement sous forme de pensées aussi. Donc, on ne peut pas empêcher la pensée de venir, mais on n'est pas obligé d'acheter la pensée ou de garder la pensée ou de répéter la pensée. Amen. Et de la même façon, on ne peut pas empêcher certaines émotions de venir. Des fois, c'est juste un réflexe. Si j'entre dans une pièce, des fois mes enfants aiment faire ça, et puis ils se cachent en arrière d'une porte, et puis bon, ils vont sauter. Ah! C'est pas souvent, mais j'ai un garçon qui aime faire ça. Mais tu sais, sur le coup, j'ai une forte émotion. C'est comme un réflexe, n'est-ce pas? Donc ça, c'est normal. On ne peut pas empêcher ces genres de réactions. Ça arrive. Et des fois, vous pouvez avoir des moments où vous êtes bombardé avec une émotion de tristesse ou quelque chose, ou de la colère. Il n'y a personne ici qui connaît la colère, non? Mais on peut pas. Et le problème, c'est que qu'est-ce que le diable aimerait, c'est que vous vous sentez culpabilisé parce que vous avez eu cette émotion ou vous avez eu cette pensée. Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'est-ce que vous faites avec qui est le problème. Amen. Et comme on va voir, regardons quelques versets ici. Je trouve ça merveilleux. Psaume 1:1-2. Heureux. Est-ce que vous voulez être heureux? Ça veut dire être béni, mais aussi c'est il y a aussi certaines émotions qui s'attachent à la bénédiction de Dieu. On est heureux. Heureux, qui? L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui font ça encore? Ils s'arrêtent sur le voie du pécheur. Ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et dans un sens, c'est difficile de distinguer la chenille d'avec le ver de terre. Ils sont pas mal semblables, n'est-ce pas? Il n'y a pas une grande différence. Mais pourquoi? Et cette personne n'est pas heureuse. Cette personne n'a pas appris à contrôler son âme. Mais regarde bien verset 2. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel qui la médite jour et nuit. Le plaisir amène avec lui une certaine émotion aussi, n'est-ce pas? Heureux, plaisir. Voulez-vous être heureux? Voulez-vous avoir du plaisir, la joie et la paix dans votre cœur? J'ai une bonne nouvelle. Vous avez un rôle à jouer. Vous pouvez contrôler vos émotions. Vous n'êtes pas obligé de suivre les émotions. Quand un feeling ou un sentiment de dépression ou de colère vient, vous n'êtes pas obligé de flécher les genoux devant. Amen. Et là, on va vous montrer comment aussi. Gloire à Dieu. Philippiens 2:5, juste au cas où vous pensez que ça sonne drôle, pasteur, qu'est-ce que vous me dites là? Parce que depuis toute ma vie, j'ai été contrôlé par les émotions, les hauts et les bas, les hauts et les bas. Philippiens 2:5 dit, ayez en vous-même les sentiments. N'est-ce pas intéressant? Que ça, c'est pas une suggestion, mais Paul dit sous l'inspiration de l'Esprit, ayez en vous-même les quoi? Les sentiments. Il est en train de nous donner un commandement de quel genre de sentiments qu'il faut avoir. Wow! Encore. Attention, je ne dis pas que ça ne va jamais arriver que l'oiseau des sentiments vole au-dessus de la tête et il vous donne une occasion merveilleuse pour céder. Ça va arriver, vous allez avoir des moments où vous sentez un peu marabout, vous vous sentez un peu triste, vous sentez la colère, mais là, vous n'êtes pas obligé de rester là. Vous pouvez prendre une décision, on parle de l'âme, intelligence, émotion, volonté, n'est-ce pas? Et encore, les deux vont de pair. Si la parole de Dieu a influencé vos pensées, ça va influencer vos émotions aussi. Parce que plus vous pensez des belles choses, des choses qui sont vraies, pures, dignes de louange, tout cela, plus vous allez avoir des belles images dans votre tête et dans votre cœur, et plus ça serait facile de cultiver des émotions positives. Écoute, moi je suis une personne qui est très heureux et je suis très positif. Pour moi, c'est très rare. J'ai des moments, par exemple, pour moi, c'est pas souvent que j'ai des combats avec la tristesse ou la dépression. Ça, c'est juste la réalité. Mais moi, si j'ai des combats, c'est avec la colère. Je suis quelqu'un j'ai un tempérament colérique. Et quand les choses vont pas comme je veux, j'ai des sentiments, des fois, qui s'élèvent dans mes émotions. Ah oui, le pasteur a ça, oui. Mais encore, c'est qu'est-ce que je fais avec qui fait la différence. Si je cède à ces sentiments, c'est pas bon. Si je pense à ça, j'ai des images de ça, et puis j'agis en conséquence, là je vais avoir du trouble. Amen. Mais qu'est-ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir contrôler mon âme. Et quand j'ai des sentiments de colère, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est ça que Éphésiens 4 dit, n'est-ce pas? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire qu'il est possible d'être en colère ou avoir des sentiments de colère sans péché, dépendant de qu'est-ce qu'on fait avec. Et qu'est-ce que j'ai appris, c'est qu'il y a certaines choses qu'on peut faire au niveau du renouvellement de l'intelligence où on peut réduire, où on peut changer l'atmosphère dans laquelle la colère peut prendre naissance. Moi, mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Éviter le dispute avant que ça commence, la parole de Dieu dit. Mais encore, je veux le souligner, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On va le dire ensemble, j'ai le pouvoir de contrôler mes sentiments. Mais c'est avec la parole de Dieu. Alléluia. Puis, numéro 3, permettez à la parole de transformer ce que vous désirez aussi. Encore, on parle de l'âme, intelligence, émotion, volonté. Vos désirs, c'est quoi? C'est votre volonté, c'est ce que tu veux. Je veux, je désire, c'est la même chose, n'est-ce pas? Je veux, je désire, volonté. Donc, la parole doit contrôler et transformer ce que je pense. La parole de Dieu doit transformer ce que je ressens, parce que plus je suis dans la parole de Dieu, plus je ressens des bonnes choses. Et la parole de Dieu doit transformer ce que je veux. Comment ça? Regardons. Jésus l'a dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes quoi? Paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Mais regarde qu'est-ce qu'il a dit, « Demandez ce que vous voudrez. » Quelqu'un, penses-tu vraiment que si quelqu'un, même s'il est de nouveau, il demande, il voudrait une chose juste folle, une chose stupide, une chose qui n'est pas du tout en ligne ou en accord avec la volonté de Dieu, s'il demande ça, est-ce que Dieu va lui donner ça? Non, parce que en Jean 5, 14 et 15 dit que voici l'assurance que nous avons auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, tout le monde dit selon sa volonté, là on sait qu'il nous écoute. Et si on sait qu'il nous écoute, on sait qu'on possède qu'est-ce qu'on a demandé. Mais voilà, la clé c'est de demander seulement les choses qui sont selon sa volonté. Il faut que je veux la même chose que Dieu veut. Et comment est-ce que je peux vouloir la même chose que Dieu veut? Il faut que je demeure en Jésus-Christ et il faut que sa parole demeure en moi et sa parole va transformer mes désirs. Amen? C'est incroyable, mais ça marche. Que plus on est dans la parole et plus la parole est en nous, plus nos désirs changent. Je veux plus la même chose que je voulais autrefois. Je désire autre chose. On va faire attention. Parce que dans votre corps physique, vous allez toujours vouloir faire des choses qui ne sont pas correctes. N'oubliez pas, on est esprit, on a une âme, on vit dans un corps. Votre esprit veut toujours faire la volonté de Dieu. Votre corps veut toujours faire le contraire. Mais quand votre âme veut faire la même chose que votre esprit veut faire, là, vous accomplissez la volonté de Dieu et vous êtes transformé et les ailes du papillon poussent et vous pouvez voler. Amen? Est-ce que vous êtes là? Et voici la bonne nouvelle. N'importe qui dans cette pièce, dans cette salle, est capable de pousser les ailes du papillon. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle créature et vous avez déjà dans votre personne le ADN spirituel d'un papillon. Même si vous vous regardez, vous dites, dans le fond, aujourd'hui, je suis toujours à l'état de chenille. Bonne nouvelle, si vous mettez la parole en pratique et si vous laissez la parole transformer ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous voulez ou désirez, là, vous allez être transformé. Amen? Bon, on arrive au conseil pratique. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Colossiens 3, 16, que la parole de Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Souligne le mot « habite ». Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous savez, renouveler l'intelligence, c'est un long processus, mais c'est pas tellement compliqué. Regarde quelqu'un et dis, c'est pas Dieu d'être un papillon. Dis ça avec conviction. Regarde quelqu'un d'autre et dis, c'est pas Dieu d'être un papillon. Trois choses qu'on va voir. Trois conseils pratiques. Et c'est pas compliqué, mais il faut le faire. Et voici la chose que, intéressante, n'est-ce pas? Que une chenille qui veut être transformée en papillon, il a quand même besoin de faire quelque chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Un cocon, c'est ça. Un cocoon, un cocon. On dit cocon? Mais un truc. Mais il a besoin de le faire. Et s'il ne le fait pas, la transformation ne va jamais avoir lieu. Amen? Et encore, dans votre vie spirituelle, si vous ne faites pas votre cocon, si je l'ai bien dit, spirituel, vous allez rester chenille. Et là, donc, le conseil pratique que je vous donne, dans le fond, je vous montre comment faire un cocon spirituel, là. Oh, merci Seigneur pour la belle langue française, la langue céleste, qui prend une éternité pour apprendre. Psaume 1. Oh, mais avant ça, je vais vous donner le premier conseil. Premièrement, laissez la parole habiter en vous. Habiter. Le mot-clé, c'est habiter, pas visiter. Savez-vous la différence entre habiter et visiter? Moi, on a 7 personnes, on a eu jusqu'à 9 personnes dans le passé qui est restée, qui habitaient chez nous. Mais aujourd'hui, on a 7 personnes qui habitent régulièrement chez nous, plus pas mal de visiteurs qui viennent. Mais ceux qui habitent chez nous, ils ont leur propre place, ils ont leur propre lit. Ils sont installés. Leurs affaires sont là. Ils ont leurs vêtements, leur linge, tout ce qu'ils ont besoin pour vivre est là. Et ça reste là. Savez-vous, est-ce que vous avez vraiment fait une place dans votre cœur pour la parole de Dieu? Ou est-ce que vous dites, bon, OK, vous pouvez venir me rendre visite dimanche matin quand le pasteur prêche? Ou ça, c'est une chose, mais c'est une autre chose de préparer une chambre et que toute votre vie soit une chambre pour recevoir la présence de Dieu, il reste là. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il faut que la parole de Dieu habite chez vous avec abondance. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que c'est continuel. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va juste lire un verset de temps en temps, mais vous allez laisser la parole de Dieu s'enraciner dans votre cœur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, on l'a déjà lu. Mais verset 2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite, quoi? Jour et nuit. Tout le monde dit jour et nuit. Voulez-vous être transformé en papillon? Ça va prendre jour et nuit. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Qu'il faut toujours apporter une Bible avec vous. Il faut, non? Mais il faut toujours apporter la parole de Dieu dans votre cœur. Quand vous vous levez, c'est dans votre cœur. Quand vous vous couchez, c'est encore dans votre cœur. Vous méditez, vous pensez, vous avez les images de la parole de Dieu qui roulent continuellement dans votre tête, jour et nuit, parce que ça fait partie de votre vie. On a toute une série là-dessus, on parlait de l'importance de respirer et de boire et de manger spirituellement. Mais c'est ça, la parole de Dieu, on a besoin de vivre avec la parole et laisser la parole vivre en nous. Quelqu'un qui vit chez moi a le droit de bouger chez moi. Jusqu'à un certain point. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'ils viennent, ils sont à l'aise chez nous. Ils sont chez eux. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent faire. Moi, je veux que le Seigneur Jésus se sente à l'aise chez moi et que la parole de Dieu puisse avoir une liberté dans mon être. S'il y a des choses à changer, à faire, il peut le faire. Je lui donne déjà la permission en avance. Amen. Donc, ça, c'est la première chose. Si on fait notre concombre, il va falloir que quelqu'un l'écrit parce que je suis visuel. Ben, en tout cas, je vais même pas oser le dire encore, mais. Deuxième chose. Gardez la parole dans votre bouche. La parole de Dieu dit qu'il faut prendre chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Comment est-ce qu'on prend une pensée? Qu'est-ce qu'on fait pour prendre une pensée? La pensée peut venir et on peut le prendre ou on peut le rejeter. Mais savez-vous quoi? Quand vous répétez la pensée, vous l'avez pris. Gardez la parole dans votre bouche. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et moi, je vais ajouter, c'est alors que tu vas devenir un papillon. Amen? Et que votre vie sera transformée. Il faut que ça soit dans votre bouche. N'est-ce pas intéressant, Matthieu 6:31, ne vous inquiétez donc, en anglais, ce verset dit, ne prenez pas la pensée, take no thought, ne prenez pas la pensée, ne vous inquiétez pas. Savez-vous quoi? Quand on est inquiet, on fait quoi? On pense, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas en quoi? Disant. Soulignez le mot disant. Ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. C'est quand on parle, quand on dit quelque chose, quand on donne une voix à notre pensée, qu'on prend la pensée. Et qu'est-ce que Dieu veut pour être transformé? Il faut qu'on apprenne à laisser la parole habiter chez nous, mais il faut le dire. Pas juste le penser, mais le dire avec sa bouche. Amen? On devrait déclarer qu'est-ce que Dieu dit. Dis la même chose que Dieu dit. Psaume 119, on a parlé de faire cela au niveau de nos pensées, nos émotions. Regarde ceci, il dit, « Agréez, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime. » Il y a des sentiments dans mon âme, mais ma bouche a besoin d'exprimer ces sentiments. Mais il faut exprimer les bons sentiments. Encore, savez-vous quoi? Et Dr. Caseman qui va venir bientôt, j'ai déjà entendu un bon enseignement qu'il a donné là-dessus. C'est que vous savez que si, par exemple, une personne dit avec sa bouche, « Oh, je suis vraiment fatigué, je suis épuisé », qu'il y a des signaux qui sont envoyés du cerveau à tous les autres membres du corps, les organes, qui commencent à préparer le corps pour être fatigué. Et c'est les scientifiques qui ont découvert cela. Quand on dit quelque chose, « Ah, je suis vraiment fatigué, je suis tanné », ou là, on envoie les signaux qui vont toucher tout notre corps. Mais vois-tu, le contraire est vrai. Si on dit « Merci Seigneur que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vivifie mon corps physique. » Là, tout d'un coup, l'Esprit Saint a libre cours pour vivifier mes membres, vivifier les cellules de mon corps physique et laisser couler même la puissance de la guérison. Amen? Mais il faut, si on veut être transformé, il faut que la parole de Dieu habite en nous, il faut qu'on la garde dans notre bouche. Et puis finalement, troisième chose qu'on voit en Colossiens 3:16, il a dit « Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. » Donc, chantez à Dieu de tout votre cœur. Vous dites « Mais moi, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas musicien. » Alors, chantez dans la douche. Chantez quand même à haute voix, mais pas trop fort pour ne pas nous déranger. Non? Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est pas juste le fait de chanter, mais c'est qu'est-ce que vous chantez? C'est la nature de votre chant. Chantez de tout votre cœur avec quoi? Reconnaissance. On dit reconnaissance. Laisse-moi vous dire, si vous ressentez, par exemple, une pensée vient, vous commencez à ressentir la colère, et vous savez que si ça ne change pas, vous allez prendre une décision d'agir d'une mauvaise façon, ça c'est l'âme, n'est-ce pas? Pensée, émotion, volonté, action. Si vous, la pensée vient, quelqu'un fait quelque chose qui vous dérange, ça tape sur les nerfs, hein? Et vous commencez à ressentir les sentiments de colère, je vous donne un truc. Si la parole de Dieu est déjà dans votre cœur, si elle habite là, vous pouvez laisser sortir, hein? Quelques versets qui parlent que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Hein? Une parole douce calme la fureur. OK? Donc, c'est là. Et en plus, tu dis, Seigneur, je vais juste te louer. Tu as dit cela et tu peux juste commencer à chanter, glorifier Dieu. Tu ne peux pas toujours faire ça devant la personne. Mais si vous avez l'habitude de chanter régulièrement la louange de Dieu et de glorifier Dieu, laisse-moi vous dire, ça va changer votre façon de penser, ressentir et désirer les choses. La louange est une arme puissante. On sait que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et quand on loue Dieu, la présence de Dieu se manifeste. Et c'est vraiment difficile de rester en colère quand on est en train de louer le Dieu plus puissant. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. Et je te loue, Seigneur, de tout mon cœur. Hallelujah. C'est difficile quand on fait ça de penser à la personne qui nous a fait tort. Amen. Mais encore, laisse-moi vous dire, c'est pas une chose qui va arriver du jour au lendemain. Je suis pas en train de dire que si vous méditez la parole de Dieu pour une journée, si vous déclarez la parole de Dieu pour une semaine, ou si vous chantez deux, trois fois les louanges de Dieu, que votre vie va être transformée et que vous allez pousser les ailes spirituelles. Mais si vous prenez une décision de vraiment bien faire votre cocon, c'est ça? Voilà. Si vous avez pris une décision, je vais faire un cocon qui est vraiment, vraiment bien isolé, bien travaillé. La parole de Dieu va habiter en moi. Je vais garder la parole sur ma bouche. Je vais chanter les louanges de Dieu. Là, laisse-moi vous assurer que votre intelligence va être transformée, changée, renouvelée. Et vous allez devenir un papillon spirituel. Amen. Mais maintenant, la question, est-ce que vous allez le faire? Parce que c'est facile de venir à l'église et de dire, oh, oui, pasteur. Mais qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi, ce soir, demain matin? Allez-vous prendre le temps de faire votre cocon? Ah, j'ai été transformé, je l'ai dit, n'est-ce pas? Allez, on va se lever debout. Alléluia. Merci, Père Céleste. Père, nous te remercions pour ta présence. Aujourd'hui, avant de partir, je vais juste prendre une minute, parce qu'on va tous prier ensemble. Mais je veux juste vous donner une invitation, parce que je le fais à chaque dimanche matin sans exception. Juste vous poser la question. Peut-être vous êtes ici, vous dites, mais pasteur, pour dire la vérité, je ne suis même pas sûr que je suis une chenille. Je ne suis pas certain que je suis déjà une nouvelle création, que je contiens l'ADN nécessaire pour devenir un papillon. Vous savez que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était parfait, il est venu sur la terre, il marchait sur la terre sans avoir jamais péché, même s'il était tenté en toutes choses comme nous. Celui qui était innocent est mort pour celui qui était coupable. Et celui qui était coupable, c'était moi, c'était vous, c'était nous. Alors Jésus est venu, il est mort. Il a été cruellement, brutalement battu, torturé, cloué à une croix. Son sang a coulé afin de vous donner le pouvoir et le droit de devenir enfant de Dieu. Et aujourd'hui, il vous offre ce don gratuit que vous ne pouvez pas mériter, mais que vous pouvez tout simplement recevoir par la foi. Donc, posez-vous la question. Savez-vous sans aucun doute que vous êtes déjà une nouvelle création dans Jésus? Si vous partez d'ici, si vous quittez cette église aujourd'hui et vous tombez, votre cœur arrête de battre et vous tombez mort, avez-vous l'assurance sans aucun doute que vous irez passer l'éternité au ciel avec le Seigneur Jésus? Vous dites, mais je ne sais pas, je suis une bonne personne. Ce ne sont pas les bonnes personnes qui vont au ciel. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est ceux qui ont reçu le pardon en Jésus qui vont aller au ciel. Et, oh, mais je lis la Bible, mais faire la lecture de la Bible, ça ne va pas faire de vous une nouvelle création non plus. Aller à l'église ne peut pas faire de vous une nouvelle création. Être gentil avec les autres ne peut pas faire de vous une nouvelle création. Seulement le sang et le sacrifice de Jésus peut le faire. Alors aujourd'hui, je veux juste que vous sachiez que Dieu vous aime, que Dieu a un plan pour votre vie. Et si vous voulez, vous pouvez devenir une nouvelle création. Comment? C'est facile. Jésus dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Et en Romains 19, la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, un Seigneur c'est un maître. Tu vas le suivre à partir d'aujourd'hui. Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la Bible dit que tu seras sauvé. C'est un don gratuit. Alors si tu veux, tu peux faire une prière simple avec moi aujourd'hui et tu peux demander au Seigneur Jésus d'entrer dans ton cœur. Tu peux lui donner le droit d'être le maître de ta vie. Et la Bible dit que tous tes péchés seront effacés, tu vas avoir un nouveau départ. Va recommencer à zéro, une nouvelle création, ton cœur va être vraiment régénéré, récréé. Et ensuite, le processus de transformation peut commencer. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Je vais juste compter à trois, je vais taper ma main, et si tu as besoin de donner ta vie à Jésus, juste lève ta main haut dans l'air, je vais prier pour toi. N'aie pas honte, comme Jésus dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies, je te renierai. Donc, qui a besoin de donner sa vie à Jésus? 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Je vous lève la main haut dans l'air. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Il y a deux personnes ici. Quelqu'un d'autre? Alléluia. N'ayez pas honte de Jésus. Deux personnes. Moi, je vais vous demander de faire quelque chose. Ça va prendre du courage, mais je vais juste vous demander de venir ici. On va prier ensemble. Viens ici en avant avec moi. On va prier. Pourquoi? Parce que si quelqu'un n'est pas capable de confesser Jésus devant un groupe de chrétiens, ça va être vraiment difficile de le faire devant ceux qui ne croient même pas en lui. Ton nom, c'est? Pardon? Qui t'emballe? Et? Jean-Marie. Jean-Marie, c'est ça. Et donc, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces deux hommes ce matin? Si tu peux juste venir ici. On va faire une prière et j'aimerais que tout le monde fasse cette prière avec ces deux hommes. Et aujourd'hui, si c'est vraiment la première fois que vous faites cela, le Seigneur Jésus va venir et il va faire de vous une nouvelle création. Donc, on va faire cette prière ensemble. Père Céleste, je viens à toi et je confesse avec ma bouche que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Tu es mon maître. Tu as fait de moi une nouvelle création. J'ai ta nature à moi. Ton amour est dans mon cœur. Et je suis capable d'être transformé dans ton image. Merci Seigneur. Mes péchés sont pardonnés. Je suis lavé, purifié, et je vais vivre pour toi le restant de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci Seigneur. Donc, moi, j'aimerais juste vous inviter. On a quelqu'un ici qui, on a un Bible qu'on aimerait vous offrir gratuitement. C'est un cadeau. Donc, Sylvain est ici. Donc, si vous voulez juste prendre deux petites minutes avec lui, il va vous offrir un Bible si vous avez des questions. Mais encore, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces deux hommes? Félicitations. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Donc, Sylvain est ici. On va chanter. On va glorifier le Seigneur ce matin. Dieu est bon. La Bible dit que si une personne se répand, que tous les anges des cieux se réjouissent, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je crois de tout mon cœur qu'ils ont beaucoup de bruit au ciel. Amen. Partez au ciel au nom de Jésus. Donc merci Père. Merci Seigneur que chacun de nous, Seigneur, nous allons prendre le temps de faire notre concombre. On va, Seigneur, laisser ta parole habiter en nous, rester en nous, demeurer en nous. Seigneur, on va garder ta parole sur nos lèvres, dans notre bouche. Et Seigneur, on va prendre le temps de chanter tes louanges et continuellement te rendre grâce, Seigneur, en toutes choses, Seigneur. Et en faisant cela, on va te transformer, notre âme, notre intelligence, nos émotions et notre volonté. Ce que je pense, ce que je ressens et ce que je désire va être transformé par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Donc, louons le Seigneur.